Alors, maintenant qu'on est bien appareillé, que l'enregistrement devrait fonctionner, commençons. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez été consolé vous-même, que vous avez pu consoler certaines personnes. On a eu un bel échange de table où on voyait que, en tout cas certains, tous d'ailleurs, ont eu l'occasion au cours de leur semaine de, soit d'être consolés, soit de consoler. Et puis ceux qui ont été à la messe dimanche, vous avez vu qu'on a eu l'évangile des béatitudes. Donc en plein parcours, c'est quand même super parce que le but des exposés, c'est de renvoyer la parole de Dieu. Ultimement, c'est toujours la parole de Dieu qui nous enseigne. Et donc on réentend la parole de Dieu de façon nouvelle. Et là, moi, ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est Jésus monte sur la montagne, voit les foules, et c'est son tout premier sermon, en fait, devant les foules. Et là, il voit des belles choses. Il ne voit pas un ramassis de pécheurs. Il ne voit pas des gens qui un jour crieront « crucifie-le, crucifie-le ». Il les regarde et il dit « heureux, heureux êtes-vous ». Il voit des pauvres de cœur, il voit des gens qui sont consolés, il voit des gens qui sont doux. Je ne sais pas si on voit les foules comme ça, si, quand vous baladez dans la journée, si c'est comme ça que vous regardez les gens que vous croisez. Regard très positif de Jésus qui voit. Alors c'est un regard prophétique, il voit leur cœur, le fond de leur cœur maintenant, et puis il voit ce qu'ils vont devenir. Il voit qu'un jour tous ces gens seront consolés. Il voit que les gens, peut-être en son nom, donneront leur vie. Heureux êtes-vous les persécutés à cause de mon nom. Il voit tout ça déjà de façon prophétique. Et puis en même temps, c'est programmatique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qui va se passer ou ce qui est déjà là, mais c'est le chemin. En disant heureux les pauvres, il leur indique un chemin. En disant heureux ceux qui consolent, ceux qui pleurent, il indique un chemin de consolation. Et ce soir, on va le voir en disant heureux les doux, eh bien, il indique aussi un chemin de vie, le chemin de la douceur. Alors on a regardé la pauvreté du cœur qui fait de l'espace à l'autre. On a parlé de la consolation qui fait plus que de l'espace à l'autre, mais qui soulage l'autre. Et puis ce soir, on va parler de la douceur qui crée une sorte d'état d'esprit particulier dans les relations fraternelles. La douceur, c'est une certaine atmosphère qui rend la vie plus facile. Elle aussi, comme la pauvreté, on pourrait dire qu'elle relève de la bonne distance. Mais la pauvreté de cœur, on a dit qu'elle permet de faire de l'espace à l'autre. Eh bien, la douceur aussi, c'est le contraire de l'effraction. Et un respect de l'autre dans la douceur, c'est l'inverse de la violence. Et donc, on pourrait dire que les béatitudes s'appuient les unes sur les autres. On commence par la pauvreté, c'est la porte d'entrée des béatitudes. Et puis, il y a les pleurs et la consolation, la compassion. Et puis on s'appuie sur ça pour, en plus, ajouter à la douceur. Je commencerai par une anecdote dans le très beau livre de Anne Dufour-Mantel qui s'intitule « La puissance de la douceur ». C'est tout petit, mais vraiment ça vaut la peine. Elle cite cette histoire. Un jeune homme italien avait été enrôlé dans l'armée de terre italienne pendant la Première Guerre mondiale. Depuis des mois, il se cachait avec ses hommes dans la montagne. Ils n'avaient presque plus de vivres. L'ordre était de défendre le col, quoi qu'il en coûte. Avec un sentiment d'absurdité, il tentait de cacher aux autres, il tenait un journal de bord. Un soir, il perçut un mouvement de troupes de l'autre côté de la faille qui séparait l'étroite vallée. Et il pensa que tout était perdu. L'offensive aura lieu le lendemain matin, c'était certain. Il n'aurait pas assez de munitions pour tenir. Cette nuit-là, il décida, à l'insu de ses camarades, d'aller faire une incursion au plus près du camp ennemi. Arrivé à mi-chemin, et au moment où il allait rebrousser chemin, il entendit une chanson s'élever d'un gramophone. La surprise le retint. Il en fut si bouleversé qu'il décida de s'avancer à découvert, un signe de reddition à la main. Il fut immédiatement capturé et amené à l'officier de l'armée allemande. Le disque tournait toujours. Ils connaissaient tous deux cette mélopée. La voix qui s'élevait était d'une douceur irréelle. L'officier s'entretint toute la nuit avec cet homme. Celui-ci tenta le tout pour le tout. Il expliqua leur position, leur mort certaine, et mit leur sort entre ses mains. L'officier le laissa repartir au matin et ne donna jamais l'assaut. Il repartit par l'autre vallée, leur laissant le temps de se replier eux-mêmes et de leur échapper. Et elle conclut, c'est une histoire de douceur. Alors ce soir, on va essayer de regarder cette troisième béatitude, bienheureux les doux, ils obtiendront la terre. Et on va voir que la douceur consiste à se désarmer face à l'autre. On va essayer d'appliquer cette béatitude au mystère de la charité fraternelle. Et on est sur quelque chose de particulièrement important, puisque Jésus a dit, et c'est rare qu'il dise ça, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Il a rarement dit « Apprenez de moi quelque chose en particulier ». Et il a presque jamais parlé de son cœur, ce qu'il y avait vraiment dans son cœur à lui. « Apprenez de moi quoi ? Que je suis doux et humble de cœur ». Donc ce soir, on tient une béatitude qui va nous faire pénétrer dans le mystère du cœur même de Jésus. Saint François de Sales, dont on a mis ici l'icône, alors on n'arrive jamais à trouver un visage sympa de Saint François de Sales, c'est dommage, parce qu'il avait la réputation d'être très doux, d'être très bon, mais dans ses images, on le trouve, moi je le trouve toujours un peu sérieux quand même. Notre Seigneur, dit-il, a formé toute sa doctrine en deux mots. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pour lui, docteur de l'Église, hein, au passage, François de Sales, eh bien, toute la doctrine de Jésus est résumée dans ces deux mots. Doux et humble de cœur. Jésus, il est l'incarnation de la douceur divine. Il est né dans la douceur, entre le bœuf et l'âne, couché dans une mangeoire, loin de la puissance des palais dorés. Et quand il est entré triomphalement à Jérusalem, eh bien, plutôt que de le faire sur un cheval blanc comme un grand général, il est monté sur un âne, même un petit âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Et pour accomplir, il voulait ainsi accomplir la prophétie, « Voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur. » Et même à la fin, vous voyez, quand Judas le trahit et que Judas vient l'embrasser, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Mon ami, fais ta besogne. » Quelle douceur. Il aurait pu le repousser en disant « Va des rétro, Satanas ». Non, « Mon ami, fais ta besogne. » Même Judas, la dernière parole pour Judas, c'est « Mon ami, il ne retire pas son amitié. » Même Pierre, mais il le réprimande au moment justement où Pierre veut choisir la violence, au moment où Pierre prend son glaive et tranche l'oreille de Malchus, un des gardes, eh bien, il lui dit « Range ton épée. » Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et le tout dernier miracle de Jésus, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est de recoller l'oreille du soldat. En plein milieu de la violence, alors que tout part en cacahuète, eh bien, lui, il a vu que l'oreille du soldat a été tranchée, il la prend, il la recolle. Donc son dernier geste est un geste d'une infinie tendresse, en fait, pour cet homme. Il aurait pu passer outre, il avait quand même d'autres problèmes dans la vie que l'oreille de la mort. C'est vraiment le bon berger, dont le propre est la douceur. C'est pour ça que le berger a deux bâtons, vous savez, un berger a toujours deux bâtons. Il a un bâton qui est une sorte de gourdin pour se battre contre les loups. Le berger, il doit être fort pour se battre contre les bêtes fauves. Puis il a un deuxième bâton qu'on appelle la houlette. C'est comme les évêques, hein, ils ont repris ce bâton, c'est avec un crochet au bout du bâton, enfin une forme arrondie. Et j'ai lu un livre d'un berger professionnel, justement, qui commente le psaume 22, le psaume du bon berger. Et au moment où il parle de la houlette, il explique comment lui, comme berger, il utilisait la houlette. Et je le cite, « Créature entêtée, les brebis se mettent souvent dans des situations absurdes et insensées. » ça vous rappelle personne. Hein. J'en ai vu qui, par avidité pour une bouchée d'herbe supplémentaire, descendaient des pentes escarpées d'où elles glissaient dans la mer. Seule ma longue houlette pouvait les tirer de l'eau et les ramener sur la terre ferme. Un jour d'hiver, j'ai passé des heures à sauver une brebis dans cette situation. Et ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi, en plus. D'autres fois, je retrouvais des moutons retenus dans les buissons de ronces où ils s'étaient aventurés dans l'espoir de quelques bouchées d'herbe verte. Bientôt, les épines étaient tellement accrochées à leur toison qu'il était impossible de se dégager. Malgré tous leurs efforts, seul l'usage de la houlette peut les tirer de ce mauvais pas. Et donc la houlette, si on devait avoir un symbole de la douceur ce soir, c'est la houlette du berger. C'est aussi ce qui permet au berger de ramener un agneau égaré à sa maman sans le prendre dans ses mains. Sinon, avec l'odeur qui n'est pas la sienne, elle pourrait rejeter ensuite les agneaux. Du coup, il prend l'agneau par le cou avec la houlette, puis il le ramène à sa maman. Alors, on vit dans un monde de violence, ne serait-ce qu'en parole. Vous voyez, on peut penser ce qu'on veut de la politique de Donald Trump, mais on ne peut pas ne pas regretter au moins le style brutal qu'il introduit en politique, ainsi que quelques autres. Le pape Léon, une semaine après son élection, a mis en garde contre cette violence en parole. Il a dit, vous vous souvenez qu'il avait dit « la paix soit avec vous », etc. Il dit « la paix se construit dans le cœur, à partir du cœur, en déracinant l'orgueil et les revendications, et en mesurant son langage, car on peut blesser et tuer aussi par des mots, pas seulement par des armes. » Donc c'est vrai que c'est un des lieux ce soir où on doit réfléchir, hein, la douceur dans les paroles. J'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui parle justement grand de ce monde. « Oh, puisque vous êtes puissant, soyez fraternel. Puisque vous êtes grand, soyez doux. » L'antidote de la violence, on va le voir, c'est la douceur. Alors nous, paroisse Saint-François de Sales, ça doit être particulièrement important, puisque on pourrait dire que le Saint-François de Sales est docteur de la douceur. Hein. Chaque docteur, souvent, a une caractéristique. Il est le docteur de l'amour, il est le docteur de la douceur, qu'il appelait la fleur de la charité. Un jour qui travaillait, j'aime bien cette anecdote, il y en a des centaines sur lui du même genre, mais un jour qui travaillait, il avait beaucoup de boulot, il était évêque quand même, et puis une sœur entre brusquement dans son bureau, elle claque la porte, elle lui demande comment on fait pour être une sainte. Et il lui répond, pour commencer ma sœur, ne claquez pas la porte. Il se met en colère, mais il y a quand même une petite vanne bien envoyée. Alors il disait souvent, soyez toujours le plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous que l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. S'il faut être excessif, que ce soit du côté de la douceur. Alors qu'est-ce que c'est que la douceur? On a vient de montrer son importance, puisqu'elle relève du cœur même de Jésus. Pour nous, c'est le saint patron aussi de cette paroisse, il y a une importance. Ok, maintenant il faut définir de quoi parle-t-on. Alors là, c'est compliqué. Si tu ne me demandes pas, j'aurais envie de plagier Augustin qui disait ça du temps. Hein. Qu'est-ce que le temps? Si tu ne me demandes pas, je sais. Si tu me le demandes, je ne sais plus. Alors, on va dire la même chose de la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Ben, je sais bien. Maintenant qu'il faut la définir, ben, je ne sais plus. Parce que la douceur, en fait, c'est un environnement, c'est une atmosphère. Donc c'est très diffus, la douceur est très difficile à définir, finalement. Elle se dit plein de choses. Vous pouvez parler de la douceur d'une caresse. Une caresse dans le sens du poil. Si vous faites en sens inverse, c'est moins doux. La douceur d'un pelage. Le chat. Le ventre du chat. La douceur de la vie, la dolce vita. Mais on parle aussi d'un fruit doux par opposition à un fruit amer. La douceur, elle a le goût du sucre, elle a le goût du miel. Elle, c'est une odeur de lait. Elle a le goût des figues, l'odeur de la rose. Donc vous voyez, la douceur, c'est plein de choses très différentes. Quel rapport entre le pelage d'un chat et une figue. Pourquoi on dit dans les deux cas c'est doux? Ça a priori rien à voir, et pourtant on sent bien que ça a à voir quelque chose. Alors quoi? La douceur, c'est pas tout à fait la gentillesse, c'est pas tout à fait la bonté, c'est pas tout à fait le sucré, sweetness, c'est pas tout à fait la qualité d'un velours, c'est pas tout à fait un son de basse intense, musique douce, pédale douce, c'est pas tout à fait la clandestinité, partir en douce. Tout ça, c'est à la fois la douceur, sans être aucun de ces éléments séparés des autres. On parle d'un acte de douceur, on fait preuve de douceur, on adoucit la fin d'une vie, les soins palliatifs. Donc la douceur, elle a quelque chose d'un peu énigmatique. Alors je préférerais partir d'une image. Prenons l'image d'un enfant qui dort. C'est doux. Peut-être que c'est l'image même de la douceur. Le premier mot de presque tous les enfants sur la planète, c'est « maman ». Et pour eux, ce mot signifie « douceur », en fait. La douceur appartient à l'enfance. Alors du coup, je voudrais vous lire un très beau psaume que certains connaissent déjà, mais qui mérite d'être lu ici. C'est un des plus courts, peut-être le plus court de tout le psautier, le psaume 130-131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je le ciel. C'est ce lieu où il y aura plus d'orgueil, où coule vraiment le miel de la grâce. C'est le lieu où il n'y aura plus de colère, il n'y aura rien qui puisse troubler notre paix. Plus de guerre, plus d'épée, plus de clairon pour sonner l'assaut. Et si nous devons entrer dans ce lieu, ce sera par la douceur. Tous ceux qui entreront doivent se convertir à la douceur. J'imagine Pol Pot, Staline, Hitler, à la porte, il va falloir qu'ils se convertissent à la douceur. Alors, se convertir à la douceur, commençons-nous ici-bas, et peut-être on peut imaginer qu'il y a trois directions différentes que je vous propose d'explorer. Par rapport à Dieu, on est doux par rapport à Dieu d'abord. Dans la Bible, par rapport aux autres, et puis on l'oublie parfois par rapport à soi-même. La douceur, elle s'exerce d'abord par rapport à Dieu, dans ce cas on peut l'appeler la docilité. Ce sont deux mots très proches, même si l'origine étymologique n'est pas la même. Douceur, ça vient du latin dulcor, ça veut dire douce, saveur, douce, vous voyez, au départ c'est la douceur d'un fruit, alors que docilité, ça vient d'ocilis, qui est dérivé de docere, enseigner. Donc l'homme docile, c'est celui qui se laisse enseigner, qui se laisse guider. Et bien c'est ça la première douceur. La première douceur, c'est la docilité du disciple qui se laisse guider par Dieu, et notamment par la providence divine. Les événements nous guident. Et quand vous êtes dans le flux de la volonté de Dieu, et bien c'est moins violent que quand vous essayez de remonter en sens inverse. Imaginez que vous êtes dans une cascade. Si vous allez dans le sens de la cascade, c'est moins violent que si tout d'un coup vous vous retournez et vous prenez toute l'eau dans la figure. Et le bon Dieu nous dit, mais je te dis ma volonté, mais tu ne veux pas la faire. Après, tu as plein de violences qui t'arrivent, mais tu l'as peut-être un peu cherché aussi, non? Pas toujours, hein, mais en tout cas, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, il y a des trucs qui nous arrivent et peut-être... On s'est mis dans le sens inverse du fleuve. On prend tout le fleuve dans la figure et ça ne peut pas être autrement. Il nous donne sa volonté pour qu'on obéisse avec docilité. Et il nous dit, mais ça va être bon pour toi. Peut-être c'est dur sur le moment, mais tu vas voir, c'est ça qui est bon. Donc les doux sont d'abord ceux qui sont dociles à la volonté de Dieu, qui sont souples à sa parole et qui ont fait une sorte de pacte avec leur cœur d'obéir à Dieu coûte que coûte. Et ça, c'est l'histoire de François de Sales aussi. Il a vécu un profond moment, un moment de grande violence intérieure qui était lié à sa doctrine, qui était lié à la doctrine de la prédestination qui, à l'époque, hantait les esprits. Il était étudiant à Paris et il avait appris que peu de gens seront au ciel, que la plupart seront en enfer, enfin toute cette histoire. Et alors il a eu une grande crise, il pensait être damné, être séparé de Dieu pour l'éternité, et il a été désespéré, il a sombré dans une sorte de dépression en fait, au point de perdre toute envie de vivre. Et alors il était angoissé, il s'est rendu dans l'église dominicaine de Saint-Étienne-des-Grès, et là il a aperçu une statue de la Vierge Marie qui tenait l'enfant Jésus dans ses bras, image de douceur, et du fond du cœur il a prié « Ô Seigneur, si je ne dois point vous voir, ne permettez pas du moins que jamais je vous maudisse et vous blasphème. Et si je ne puis vous aimer en l'autre vie, puisque personne ne vous loue en enfer, que du moins je mette à profit pour vous aimer tous les moments de ma courte existence ici-bas. » C'est quand même magnifique ça. Et c'est pas tout le monde qui ferait cette prière. Hein. Si on vous disait, bon, de toute façon, tu iras en enfer. Est-ce que vous allez vous lever pour la messe le dimanche? Donc qui va dire, en fait, je vais profiter des moindres instants pour t'aimer ici-bas, étant donné que je ne pourrai pas t'aimer plus tard? La plupart diront, oh, bah alors, on va pas s'embêter. Hein. Donc c'est très beau, et à partir de ce moment-là, en fait, la paix est revenue d'un coup. En un instant, les ténèbres se sont dissipées, et il s'est abandonné entièrement à la providence divine. Une de ses paroles, c'est qu'il disait jamais non. Il dit, je dis toujours oui à la Providence. Tant qu'il n'y a pas d'opposition, je dis toujours oui. La douceur par rapport aux autres, eh bien, une première chose qu'on pourrait dire, c'est que l'homme doux, en fait, bah, il est calme, il est amical, mais disons qu'il est désarmé. Et là, je voudrais vous citer trois passages que je trouve très beaux. Et l'histoire aussi de Tolstoï. Le premier passage, c'est Christian de Chergé. Vous vous souvenez de Christian de Chergé? C'était le prieur des moines de Tibérine, en Algérie, qui a été égorgé, hein, donc avec ses compagnons en 94, je crois. Et puis, il avait eu en fait un événement précurseur, puisque Sayar Atyar, qui était le grand terroriste du coin, était venu le visiter une nuit de Noël, et on savait que Sayar Atyar, il avait tué des dizaines de personnes, hein, déjà. Et Sayar Atyar, un soir de Noël, frappe à la porte, et voulait trois choses. Il voulait de l'argent, il voulait des médicaments, et il voulait que frère Luc, le médecin, sorte pour s'occuper de ses hommes. Et là, Christian de Chergé lui a fait face et lui a dit « Nous préparons Noël, naissance du prince de la paix, vous venez en armes dans ce monastère. » Et l'autre a été surpris, il a dit « Excusez-moi, je ne savais pas. » Et alors ils sont sortis dehors et par trois fois, Christian de Chergé a pu dire « Non ». Il a refusé, Sayar Atyar est reparti, bredouille. Sur le coup, il a été très courageux, comme ça peut arriver, comme ça, quand on est face à un événement, on est tout de suite très courageux. Il y a peut-être de l'adrénaline, je ne sais pas. Et puis après, il s'est mis à trembler comme une feuille, et puis il était en colère. Et sa première prière, ça a été « Seigneur, tue-le ». Puis après, il dit « Je suis moi, je ne peux quand même pas prier comme ça ». Alors il dit « Je ne peux demander au bon Dieu, tue-le, mais je peux demander, désarme-le ». Il raconte que ça a été sa prière. Et après, dit-il, je me suis dit « Ai-je le droit de demander, désarme-le ? Si je ne commence pas par demander « Désarme-moi » et « Désarme-nous en communauté ». C'est ma prière quotidienne, je vous la confie tout simplement. Alors là, on retrouve quelque chose que le pape va dire au moment de son élection, hein, les premiers mots, les premières paroles du pape Léon, « Que la paix soit avec vous, très chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée, une paix désarmante ». Troisième passage, c'est Athénagoras, le patriarche de l'église de Constantinople en 72, qui dit « Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais maintenant je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si on se désarme, si on se dépossède, si on l'ouvre, on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Alors l'histoire de Tolstoï, c'est la suivante, c'est dans un ouvrage qui s'appelle « Maître et disciple » où un maître et son serviteur s'engagent dans une route qui traverse la forêt. Et puis la neige commence à tomber, et puis peu à peu ça recouvre tout. Ils sont avec leur cheval, et puis là leur cheval traîne le traîneau, et puis ils tombent dans le fossé, le traîneau est cassé, le cheval tombe, et là il comprend que c'est perdu. Et alors Tolstoï, qui donne jamais de leçons morales, mais qui dramatise pas non plus les scènes, il crée un moment assez lent où on a l'impression que le blanc de la neige nous envahit, que nous, lecteurs, nous nous engourdissons nous-mêmes, jusqu'au moment où on sent que quelque chose se passe dans le cœur du maître. Et on voit alors le maître, tout d'un coup, entouré de son corps et réchauffé de son manteau, le serviteur exposé au froid, et se laisser mourir à sa place. Alors ici, Tolstoï nous fait comprendre le côté christique de la douceur. La douceur du Christ qui meurt à notre place, c'est comme ce maître qui entoure de son corps le serviteur pour que celui-ci ne meure pas de froid. Très rapidement, puisque je vois que j'ai dépassé un peu mon temps de parole, la douceur envers soi-même. Alors François de Sales a ici des très belles paroles, je vous invite à le lire. Il dit « Ayez plus de compassion que de passion avec vous-même ». Vous voyez, parfois, quand on fait des péchés, on est très mécontent de soi-même, et ou alors même, des fois, pas des péchés, mais on a oublié ses clés, on dit « Mais quel con !» Mais on s'insulte soi-même, enfin, etc. Et François de Sales, je ne pense pas qu'il faisait ça. Il dit « Il n'y a rien qui conserve plus nos défauts que l'inquiétude et l'empressement de les ôter. Il en est beaucoup qui, s'étant mis en colère, se courroucent de s'être courroucés, se chagrinent de s'être chagrinés et se dépitent de s'être dépités. D'où il arrive qu'ils tiennent leur cœur toujours enflé et détrempé de colère, et que la seconde colère, en paraissant ruiner la première, sert néanmoins d'ouverture et de passage à toutes celles qui se présenteront. » En plus, il écrit bien. Hein. Croyez-moi, Philothée, comme les remontrances d'un père, faites doucement et cordialement, ont bien plus de pouvoir sur un enfant pour le corriger que les colères et les courroux. Ainsi, quand notre cœur aura fait quelques fautes, si nous le reprenons avec des remontrances douces et tranquilles, ayant plus de compassion de lui que de passion contre lui, et l'encourageant à mieux faire à l'avenir, le regret qu'il en concevra entrera bien plus avant et le pénétrera bien mieux que ne ferait une correction aigre, injurieuse et emportée. Alors voilà, on a ces trois dimensions de la douceur sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir réfléchir ensemble à table. J'aimerais terminer par une prière qu'a composée Christian de Chergé, justement autour du thème « Désarme-nous », ou plutôt « Désarme-le, désarme-nous, désarme-moi ». Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les. Seigneur, désarme-les de leur kalachnikov, de leur bombe, de leur ceinture, de leur haine, de leur soif de vengeance, de leur aigreur et de leur ignorance. Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre sentiment de supériorité, de notre besoin de dominer, d'avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire. Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes excuses, du mépris, de la colère, de la rancune, de l'hypocrisie, de l'envie, de mon assurance, de ma suffisance, de mon angoisse, de mon arrogance. Donne-moi de me dépouiller petit à petit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour arriver à la Pâque, il me faut accepter d'être sans armes, nu avec le Christ sur la croix. Amen.